Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
La section que tout le monde attendait. On ne lit pas de livres ici, on ne va pas au cinéma, on reste devant la télé et on regarde des séries télé. Et il y a donc beaucoup de séries qu'on attend en 2024. Un grand bonjour et un grand merci à Mintara qui vient de rejoindre le live avec un sub. Tequila Tex, à toi l'honneur. Quels
ah
sont...
ouais à moi l'honneur
oui,
oh.
Oui, les invités d'abord, attendez bien élevé. Quelles sont les séries télé que tu attends le plus en 2024? Tu commences par celle que tu veux. Celle que tu veux, donc. On est les pires.
On est les pires.
On n'en va pas en parler tout de suite.
Alors, qu'est-ce que j'ai noté en fait, elle est déjà, elle a commencé aujourd'hui.
Ok, bah c'est bien, on est dans l'actu là.
Elle
let's
a
go.
Commencé hier ou aujourd'hui, je sais plus. Hier, probablement.
Ok.
Et franchement, j'avais un peu lâché l'affaire. Mais là, je suis à nouveau dedans. 1000 milliards de pourcents après avoir vu le premier épisode ce matin.
Je sais de quoi tu parles, je pense.
True Detective 4.
Yes! True Detective Night County, je crois.
Ah, c'est
le nom de cette nouvelle
balle.
Bah écoute, c'est trop bien. Il y a des gens qui l'ont mentionné sur Insta. Moi, j'ai pas accroché, j'ai pas vu encore.
Balle.
C'est avec Jodie Foster.
Jodie Foster.
On adore Jodie Foster.
Et une actrice, qui est dans la vie, qui fait de la boxe.
Oh, trop
qui
cool.
Est,
qui est boxeuse. Waouh.
Et franchement, ça défonce.
Alors, True Detective, c'est une série d'enquête de détective. C'est
déjà
une série d'anthologie.
Donc, chaque saison est une histoire complètement différente.
Donc, vous pouvez commencer à la saison 4 qui
Exactement.
Vient de commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu les précédentes.
Moi, j'avais adoré le début de la saison 1.
Ok. Avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey, ça avait fait grand bruit à l'époque comme
Exactement.
Série.
Exactement. Et ça promettait plein de trucs. Notamment un peu X-Files, un peu surnaturel,
ouais.
Un peu on sait pas si...
Oui, bah c'est des crimes...
C'est un meurtre,
louche,
on sait pas
quoi.
Si c'est surnaturel ou pas. Et je vais pas spoiler, mais j'avais été déçu par la fin.
Ok.
Déçu par la résolution.
Ce qui est quand même important pour une série thriller d'enquête.
Exactement. Donc, j'avais aimé le chemin, mais j'avais pas forcément aimé l'arrivée. Et... la saison 2, on m'a dit que c'était pas ouf.
Ouais, le chat, Etsumu sur le chat dit la saison 2 était pas un peu nulle.
Probablement.
En tout cas, elle a été moins... Mais je crois qu'il y avait eu des galères de...
Il y a eu une saison 3 qui apparemment défonce.
Ok.
Avec le gars qui joue dans le Cage, qui était censé être Blade, là, l'acteur oscarisé pour le film...
Je vois sa tête, mais je n'aurai pas son nom, mais j'espère que je vais
pour
googler.
Pour le film...
C'est pas Mahershala Ali.
Voilà, Mahershala Ali.
Oui,
voilà.
Qui est donc oscarisé pour Moonlight.
Ouais, voilà, exactement.
Il est toujours sur le remake de Blade, non? Il est toujours dedans?
Ouais, mais
je
crois qu'ils ne vont pas le faire. Je sais
ah,
pas,
bah,
il y a plein de problèmes avec cette...
On en revient à Marvel, c'est compliqué.
Et donc ça, c'était la saison 3.
Mm-hmm.
Là, c'est la saison 4. Alors... Pour tout, je peux pas spoiler.
Non, mais
déjà j'ai vu qu'un épisode.
Ok.
Mais
donc facile.
Donc je vais juste donner des mots clés, ok.
Ok.
Donc déjà Jodie Foster.
Ouais, on adore.
Alaska, les Inuits.
On adore.
Ok.
Moi j'aime bien le setting, il fait nuit tout le temps et
exactement.
Les corps se gardent longtemps dans la neige.
Exactement.
Tu
et j'ai juste regardé. En fait, pourquoi j'ai eu. En fait, ce matin, je me disais, je réfléchissais à ce dont on allait parler aujourd'hui, et j'ai vu sur mon feed internet, parce que je suis beaucoup de trucs de récap de séries. Mm-hmm. J'ai vu un récap de séries et le thumbnail, c'était genre Ch'toulou.
C'est bon. Il y a des hommes poissons dans ouais, Ch'toulou, True Detective.
Un ours polaire chelou, tu vois, avec un œil
ouais,
en moins.
Ouais, genre The Terror, là.
Ouais.
OK.
Et Matthew McConaughey.
Et j'étais mais il n'y a genre... même pas Matthew McConaughey, non, ouais,
mais
Jodie Foster.
C'est un peu un throwback à la première
oui.
saison.
OK.
Tu vois.
Y a, donc, on en revient à peut-être
donc
ce doute.
Donc, on revient à ce doute.
Est-ce que c'est du surnaturel?
Sauf
est-ce que c'est des rituels païens, sectes,
donc,
machin?
Donc, maintenant, ayant vu la première saison, je sais à peu près à quoi m'attendre ou à quoi ne pas m'attendre. Donc, j'y vais sereinement.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Ça va défoncer.
OK. Je et pense, en clairement... vrai, les critiques sont très bonnes sur cette ouais. saison.
Et c'est clairement une vibe... probablement que ça va se finir rationnellement, mais il y a une vibe The Thing, il y a une vibe, il y a une vibe Lovecraft.
Ouais.
Y a une vibe Lovecraft.
Et ça, bah, en plus, t'es aux confins du monde, dans les territoires où il fait, voilà, où il y a la nuit perpétuelle ou le jour perpétuel et où on sait pas.
C'est trop bien. Et c'est trop bien.
C'est pas ce qui peut se passer.
Jodie Foster défonce. Toutes les actrices défoncent. C'est trop bien.
Il y a Luce qui demande, bien, c'est sur quelle plateforme c'est...
Amazon Prime en France.
Ok.
C'est
et bah
HBO
facile.
Aux États-Unis.
Ok, donc il faut faire le Prime plus Pass Warner ou Prime tout court, ça suffit?
Bah, je sais pas, du coup, moi j'ai tout pris.
À mon avis, du coup, si c'est HBO, c'est sur le Pass Warner qui est donc en plus de Prime Video. Mais écoute, tu m'as vachement hypé. Peut-être que je vais donner sa chance à True Detective à nouveau. Peut-être que je me ferai le pilote quand après ce live.
En tout cas, le pilote défonce. Peut-être que bon, peut-être que ça tient pas.
On verra, on verra. Moi, j'avais pas trop. J'avais essayé que la première saison.
Ouais.
Et donc, le personnage de Matthew McConaughey est très nihiliste. Il fait des grands discours où il explique pourquoi rien n'a de sens et l'homme est
un
virus machin. Et moi, ça m'avait broutax. J'étais là. Vraiment, on vit dans une saucisse, le mec. Tu vois.
Mais l'autre, comment il s'appelle?
Woody Harrelson.
Ouais, Woody Harrelson. À côté, t'es genre, ferme ta gueule.
Oui.
T'es vraiment un gros bouffon.
Il était pas en mode, ah ouais,
casser
les
couilles avec tes histoires.
T'es trop profond, il était là.
Ils arrêtaient pas de s'embrouiller, c'est ça.
Pourquoi tu penses à des choses comme ça?
Ouais.
Les mecs, tu montes dans la bagnole, t'es là, tu veux aller bouffer où? Il est en mode, l'humanité est un virus, tu peux pas être normal.
Le temps est un cercle.
Et donc là, Jodie Foster, elle joue l'enquêtrice principale, j'imagine.
Ouais, et c'est pas la même dynamique. C'est pas Mulder et Scully, tu vois. Et c'est plus compliqué que ça.
Ok.
Et il y a plein de secrets, il y a plein de persos qui ont l'air de défoncer, il y a plein de dynamiques entre les persos que tu découvres au fur et à mesure du pilote.
Dans les coins reculés, tout le monde se connaît. En plus, il y a pas grand monde.
C'est trop
quoi.
Bien.
Ok, les squelettes dans le placard dans la neige.
C'est trop bien. Il y a trop de moments où what the fuck. C'est trop bien. C'est trop bien.
Écoute, tu le vends bien. Et c'est déjà.
Et c'est trop commencé. Les White Walkers.
Ouais,
c'est trop
bah ça oui.
Walkers.
Qu'est-ce qui se donc, cache dans la forêt enneigée?
J'espère que ça va pas se résoudre par l'ennemi, c'est le réchauffement climatique. Parce que je l'ai intégré. Si j'ai envie qu'on me dise ça, on a qu'à regarder les news en fait.
Oui, oui, tout à fait.
Et on n'a pas besoin d'une série télé pour ça. Mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu ça, mais j'espère.
Mais si c'est un truc genre, le réchauffement climatique a fait fondre des virus, tu sais, dans le permafrost, et ça fait genre crari la rage, mais une rage qu'on connaît pas, et du coup les monstres, c'est, tu vois.
Ah, ça peut être.
On a créé notre propre destruction,
gars. Peut-être.
Ok, ok. Bah écoute, moi, là.
Je voudrais que ce soit un peu plus tangible que juste.
Oui, que genre, les humanités, les humains sont vraiment la lie de l'humanité. Ok.
Voilà.
True Detective, Night Country, c'est déjà. En route sur HBO et donc sur le Pass Warner.
Sur cette chaîne Twitch, j'aime pas quand c'est trop symbolique.
Oui.
J'aime quand c'est un petit peu, j'aime pas quand c'est trop.
Un peu concret, quoi.
Le cerf dans l'école symbolise ton enfance, tu vois.
Yes.
Symbolise ton père qui t'a battu, tu vois.
Un peu de logique, de tangible.
Un peu de tangible.
Je vois. Ok, moi, la première série chronologiquement qui me tente et dont on parlera sur cette chaîne avec au moins un live, c'est sûr. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est Masters of the Air qui arrive le 26 janvier sur Apple TV.
Ah, les avions, là?
Ouais, c'est la suite de The Pacific, enfin de Band of Brothers et The Pacific, qui sont donc deux séries créées par notamment Spielberg à la prod. Après, Il faut sauver le soldat Ryan, qui sont des séries qui se penchent sur la Seconde Guerre mondiale vue par les Américains. Donc Band of Brothers, c'est sur les parachutistes du débarquement de Normandie. The Pacific, c'est sur les gars qui se battaient sur des îles au Pacifique. Et Masters of the Air, ce sera sur les pilotes de l'armée américaine. Ça commence le 26 janvier sur Apple TV+. Il y a un pognon fou, il y a tous les acteurs bankable du moment. Ça va être bien, ça va être la guerre. Il y aura probablement très peu de personnages féminins intéressants, mais c'est pas très grave. C'était l'époque, on va dire. Et je suis hypée, je vais regarder ça avec un pote fan d'histoire, avec Krustat, si tu es toujours sur le chat, bonjour. Et on fera un live où il pourra déjà vous parler du réalisme, ou pas, de Masters of the Air, ça va être cool. Voilà, c'était la première série qui me tente de l'année. Tu veux en faire une autre ?
Je suis pas
toi, c'est
à
pas
fond
trop
dans les avions...
Moi non plus en soi, mais j'ai beaucoup aimé Band of Brothers et The Pacific, alors que je suis pas, j'aime pas les trucs de guerre.
J'aime pas trop Elvis, là.
Oui, c'est Austin Butler, son nom, je crois. Le mec Austin qui joue Power. Elvis, qui joue le, enfin, qui joue Elvis, entre autres, mais qui a joué Elvis longtemps, qui tient le premier rôle. Bon. Je pense qu'il a la bonne gueule de l'emploi. C'était lui ou le mec de Top Gun, je pense, tu sais.
Ouais.
Le petit beau gosse, là, actuel. On verra. Ouais. Mais je pense que ça va être bien.
On parle pas des trucs si on parle des nouvelles saisons des trucs.
Oui, tu peux parler de machin saison 2, on va parler de The Boys, on
moi,
va parler
que
de
The Boys soit bien.
OK, The Boys saison 4, cette année on sait pas quand mais cette année.
Je pense que ça peut être pour l'instant c'est presque un sans faute The Boys.
Ça commence à tirer un peu sur la corde. La saison 3, j'ai trouvé des des moments où je me dis peut-être que vous saviez pas que vous auriez 4 saisons et en fait The Boys a un problème de Homelander, c'est le méchant. Et c'est le personnage le plus intéressant. Et
ouais.
Bah, il y a un moment où il est invincible et c'est chiant, quoi. Faut en faire quelque chose. Ça tourne
peu
en rond, quoi.
Je pense que ça va. Je pense qu'ils en sont conscients de ce problème-là. Mm-hmm. T'as regardé Gen V ? Oui. T'as aimé Gen V ?
Oui. Attendez, je décède, je reviens. Oui, Gen V. Donc, c'est le spin-off de The Boys.
Oui.
Qui montre la nouvelle génération de super-héros.
Ouais.
Et j'en avais fait un live avec Fabrice Florent. J'avais bien aimé.
Moi, j'ai bien aimé.
Et je pense que ça m'a redonné confiance.
Moi,
ça m'a re-hypé pour The Boys.
Je suis hypé.
Parce que ça se passe en même temps.
Et moi,
que
ça
suit la fin de The Boys saison 3.
Ouais. Moi,
et ça nous montre une autre facette de cet univers. J'ai bien aimé The Boys
saison
3.
J'ai aimé
saison
2 et 3 plus que la première, je pense.
Pour moi, je pense que c'est la première. Peut-être la 2, tu vois, le sweet spot. Là, la 3, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire au bout d'un moment de Homelander, quoi. Et il y a un peu des trucs, tu vois, des longs trucs sur le world building où on en sait trop et pas assez. Genre le personnage qui est joué par Giancarlo Esposito, qui joue Gus Fring dans Breaking Bad, qui joue bah, le... Donc The Boys, ça se passe dans un univers où il y a des super-héros qui sont dans une entreprise qui s'appelle Vought, qui s'en sert comme des armes culturelles et des armes littérales. Et qui sont des méchants capitalistes. Et le chef, en tout cas un haut placé dans cette entreprise, est joué par Giancarlo Esposito. Et on le voit, au début on le voit très peu, donc c'est un peu genre, ah, j'ai hâte de savoir c'est quoi son bail et tout. Et là on arrive à la saison 4 et je suis là, j'ai toujours hâte de savoir finalement.
Ouais, mais ça, on va savoir là.
J'espère.
Moi,
et en même temps, faut pas tout balancer d'un coup.
Ce que je souhaite à toutes les séries, de toute façon, c'est de s'arrêter au bon moment.
Oui.
Et ce que je souhaite à The Boys, c'est de vite résoudre le Homelander problème qu'ils ont.
À mon avis, The Boys 5 saisons, c'est bien, tu vois. Saison 4, on règle le Homelander problème.
Ouais.
Saison 5, on gère la poussière qui retombe.
Peut-être
le Gus problème.
Ouais.
Et il y a Gen V qui va continuer, qui a été renouvelée. Il y a effectivement quelqu'un sur le chat qui dit, Bird's Eye dit, il y a au moins deux autres spin-off de The Boys. Je crois qu'il y en a au moins un, en plus de Gen V. Il y en a au moins deux en tout.
Il y a une série animée anthologique aussi autour de The Boys. Avec deux épisodes.
Diabolical.
Pas trop mal, les épisodes moins bien.
Ouais, c'était sympa.
C'était ok.
Moi, j'ai bien aimé l'initiative un peu animatrix, tu vois, entre deux saisons, on va faire de l'animation, ça coûte moins cher et on peut tester des trucs. Voilà, The Boys, je suis d'accord avec toi, c'est quand même toujours cool. Voilà, j'ai juste un peu d'inquiétude sur « Maybe on commence à tirer un petit peu trop ». J'arrête de mourir.
Est-ce que mon micro est un peu faible ? C'est parce que tout à l'heure, je criais.
Tout à l'heure, la voix de Monsieur Chaussette.
Je parle comme ça ! Et tout le monde a dit que c'était trop fort et tout le monde voulait plus personne voulait entendre cette voix. Alors c'est vous qui avez fait ce choix.
En tout cas, The Boys aussi, on en fera des lives sur cette chaîne. Peut-être avec toi, si tu es dans le coin.
Je veux bien en faire.
Peut-être avec Fabrice Florent, peut-être avec Nodus. Voilà, il y a plein de gens dans ma vie qui regardent The Boys, donc ce sera cool. Dans un autre style, sur Prime aussi, le 2 février, donc très bientôt, il y a enfin, j'avais raté que ça sortait, la série Mr. and Mrs. Smith par Donald Glover. Donc Donald Glover alias Childish Gambino. à qui on doit Atlanta, qui est une des meilleures séries, je pense, de ces dernières années, même si elle est inégale, en tout cas, elle propose vraiment des trucs très très bien. Et Donald Glover, donc, adapte Mr. and Mrs. Smith, c'est bien Mr. and Mrs. Smith, le film que vous connaissez, où, pour rappel, le pitch, c'est un homme et une femme sont mariés, chacun est en réalité tueur à gages sous couverture, et ignore que l'autre est aussi tueur à gages, et ils sont dans le film, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, ils ont chacun comme mission de d'abattre l'autre. Et c'est là où ils se rendent compte que, ah merde, on fait le même métier, et du coup, bah, il faut s'allier contre leur chef tueur à gages, et ils sont hyper sexy, ils ont des flingues dans les portes jartel, et c'est Brad Pitt et Angelina Jolie qui se chopent, quoi. Avant qu'on sache que, malheureusement, cette histoire s'est mal passée en vrai. Je suis très curieuse. Je vois pas ce que Childish Gambino fout là. À la base, il y avait la meuf de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, sur le projet, mais elle l'a quitté.
Ah.
Mais elle a été remplacée par une autre femme qui apparemment a fait aussi des séries très cool ces dernières années. Et voilà, il y a la Prime Money, il y a Donald Glover. Okay. C'est une histoire un peu sexy. C'est une série.
C'est une série.
Voilà, je sais pas à quoi en penser, mais je vais donner sa chance. Clairement, je vais regarder ce que ça donne le 2 février.
Ouais. Voilà. Faut que ce soit. Ouais. Il va falloir que. Ouais. Il va en falloir beaucoup pour m'intéresser à un remake de ce film.
Oui, de ce film dont.
Que j'ai instantanément oublié une seconde après l'avoir vu.
Oui, je comprends. C'est un film qui est en plus un peu daté, quoi. À plein de niveaux. Surprenant, mais rien que pour ça. Et parce que c'est Donald Glover.
Ouais.
Je vais regarder et voir ce que ça donne, quoi. Le fait que Phoebe Waller-Bridge se soit barrée pour divergence sur l'histoire fait peur. Est-ce qu'on est sûr de ça? Il y a Aki Bassman qui dit ça sur le chat. Ah, il me semblait que c'était...
Aki Bassman, c'est un journaliste de série.
Ah, c'est vrai?
Belge.
C'est vrai?
Oui.
Est-ce que t'as... Des fois, tu sais, je sais
non,
pas
non,
si
c'est,
tu me
c'est,
troll ou pas.
Non, non, c'est pas de l'humour absurde.
Eh bien, si la personne est journaliste série, on est peut-être sûr.
Et
il me semblait qu'à la base, ils avaient dit problème de planning, mais...
Il dit pas que des conneries.
Il
dit pas que des conneries, ce jeune homme.
Eh bien, bienvenue, Aki Bassman, sur cette chaîne. Welcome. Et merci pour cette info. À voir, du coup, Mr. and Mrs. Smith avec prudence, mais un peu de curiosité. De quoi tu parles comme série?
Alors, attends. J'ai tout noté...
Tout, tout, tout.
Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, bah, Three Body Problem, on en a parlé tout à l'heure.
Voilà, le problème à trois corps. Du coup, sur Netflix, le 21 mars. Donc, toi, t'as pas lu le livre? Tu prévois pas de le lire?
J'ai pas lu le livre, je prévois pas de le lire.
Pourquoi ça te chauffe, du coup?
Rien ne me chauffe. Non, en fait, rien ne me chauffe.
Je n'aime pas ça.
Rien
ne
me chauffe.
Ok.
En fait. Et surtout, l'implication de. Comment il s'appelle
oui,
les deux enfin
ouais parce qu'on l'a pas dit
voilà.
Mais derrière l'adaptation du problème à trois corps se trouvent David Benioff et D.B. Weiss, que vous connaissez peut-être sous l'acronyme D&D, ce n'est pas Donjons et Dragons, c'est le duo à qui on doit l'adaptation de Game of Thrones en série.
Donc,
avec les hauts et les bas qu'on a connu.
Ouais, voilà. Donc ces deux zozos là ça me fait un peu peur, tu vois.
Ouais,
et,
je suis d'accord.
Et donc au départ on me dit et puis le truc a l'air déprimant, tu vois, genre le truc a l'air méga déprimant.
Ça a pas l'air fun, hein, c'est pas
le truc a l'air méga déprimant. Et puis j'ai cliqué sur la bande annonce et c'est tous les acteurs de Game of Thrones, en fait.
On va se faire la bande-annonce, vous savez quoi? On va se faire la bande-annonce en VOST tous ensemble.
C'est non seulement tous les acteurs de Game of Thrones, en tout cas trois gros acteurs de Game of Thrones, mais également Benedict Wong et également la petite easter egg, il y a une actrice asiatique qui s'appelle Rosalind Chao, qui est nul autre que la femme de Chief O'Brien dans Star Trek Deep Space Nine.
Ok, là on est dans
la ma
Tech
série
Universe,
qui est dans le Tequila Tech Universe chaque jour de ma vie. Et elle est géniale, cette actrice. Elle joue Keiko O'Brien dans Star Trek Deep Space Nine. Je l'adore, cette actrice. je suis un petit peu amoureux d'elle. La version Deep Space Nine j'ai un méga faible pour elle.
On a le droit, hein.
Il y a un épisode, en fait, dans Star Trek Deep Space Nine, le personnage qui joue son mari, c'est le
bouc émissaire.
Non, mais c'est les scénaristes adorent lui foutre des catastrophes sur la gueule.
Ok.
En fait, les scénaristes adorent parce que tu sais, Star Trek, c'est un petit peu le méchant de la semaine, tu vois. Oui. La planète de la semaine, tu vois. L'événement SF de la semaine, yes. On va dire. Et donc, y a toujours un épisode où Chief O'Brien passe 70 ans dans une prison mentale qui a en fait duré 2 minutes, yes. Tu vois.
C'est toujours quand il y a une merde, c'est pour lui, quoi. Quand il y a une grosse, grosse merde.
Il y a un épisode où, genre, la meuf de Chief O'Brien revient d'une mission, je sais pas où, et elle est habitée par un espèce d'alien démon, tu vois. Ah, dommage. Et elle lui fait la misère. Et elle est genre, je tue ta fille si tu le dis à qui que ce soit. Donc lui, il est obligé de faire genre, tout va bien pendant tout l'épisode, alors que sa femme le martyrise. Et genre, elle joue trop bien la meuf possédée, mais genre, un peu sadique et un peu genre, qui fait bonne fille. Elle est trop forte.
Donc, okay, mais du coup, elle a l'air d'avoir aussi un range comique qu'on va pas forcément, comme on l'a dit, c'est pas comique, problème, vraiment, ça appelle.
C'est pas comique, c'est pas okay. Comique.
C'est subtil. Je sais pas, j'ai pas vu Deep Space Nine, je vois pas trop le
ton est pas exactement comique, c'est du Star Trek, quoi.
Ouais.
C'est de la.
C'est bon esprit, mais c'est pas une comédie.
Voilà. Et c'est, franchement, moi, juste le fait de l'avoir au casting m'a convaincu. Plus Benedict Wong que j'aime bien, plus tous les acteurs de Game of Thrones, tous les super trucs Price là.
C'est pas Vincent Price, Jonathan Price.
Jonathan Price.
Yes. Bah, on va regarder la bande-annonce ensemble. Ouais. Et avant, parce que sinon je vais oublier, on a Birdseye sur le chat qui vous dit « Si vous voulez une série copier-coller du livre Le Problème à Trois Corps avec des acteurs chinois, regardez la série chinoise produite par Tencent et dispo sur Prime Video, ça s'appelle Threebody. » Voilà, comme ça vous l'avez. Okay. Vous pouvez regarder la série chinoise et la version américaine.
Ah ouais, merveilleux.
On va regarder ensemble.
Je sais pas, je me méfie, mais bon, les acteurs sont tellement bien.
Ok.
Est-ce
que vous croyez en Dieu? Liam Cunningham, Lord Davos, ouais. Sir Davos lui-même, et là.
Sir Davos,
voilà, c'est un
truc là aussi, comment il s'appelle?
Donc Jonathan Pryce, on l'a dit, qui joue le grand Septon, le grand moineau dans Game of Thrones et qui est actuellement dans The Crown, où il joue la dernière mouture du prince Philippe, l'époux
c'est
de feu Elisabeth.
Crown, hein.
Oui, c'est fini.
Ouais.
J'ai rien compris, mais ça a l'air épique. Pareil, je n'ai pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue. Je lirai le livre, car on en parlera en live dans le premier book club le 28 février sur cette chaîne. Notez-le dans vos agendas avec Kalindi.
J'ai un tout petit peu peur de que ça ressemble à, que ça se prenne trop sérieux à la Westworld.
Que
ce soit trop compliqué, en fait, que ce soit des devoirs à faire à la maison.
Ouais, mais je me rends, comme j'ai pas lu le bouquin et que je sais que c'est, voilà, considéré comme plutôt de la SF mathématique, je me dis, peut-être le bouquin, c'est un peu ça aussi qui a plu aux gens. Moi, j'ai peur parce que c'est Netflix. Honnêtement, désolé, mais j'ai aucune confiance en Netflix pour des nouvelles séries depuis plusieurs années. J'ai rarement eu tort. Et ça a l'air d'être un livre complexe et subtil. Et je trouve que Netflix fait pas des trucs ni très complexes ni subtils en ce moment. Après, le fait que ce soit Benioff et Weiss, on a beau râler sur Game of Thrones, notamment sur la fin. En vrai, quand ils avaient des livres à adapter, ils l'ont très bien fait. Et Game of Thrones, ça s'est cassé la gueule quand ils avaient plus de livres.
Ouais,
parce que George R. R. Martin a arrêté.
Bon argument.
Là, et tous les livres, il me semble, du Problème à Trois Corps sont sortis. Donc, ils savent faire un taf d'adaptation. C'est un bouquin chinois. Je me rends pas compte de culturellement, tu vois, eux ils sont américains. Ils sont américains ou britanniques, je sais plus. Comment ça va se passer en termes de lecture des thématiques et tout, mais ça, on verra. Et j'espère. Je touche du bois vraiment. J'ai très envie que ce soit très bien. J'ai envie d'adorer cette série. J'ai envie qu'on soit tous à fond. Il y a Birdseye qui nous indique qu'il y aura un podcast officiel comme pour Tchernobyl à l'époque qui sortira à chaque épisode. Enfin voilà, et par contre, j'espère vraiment que ça va pas être toute la saison d'un coup, mais je crois que si, parce que je crois que Netflix fait pas du week to week, et ça pour moi c'est vraiment dommage.
Trois épisodes par trois épisodes.
Peut-être.
Il y a John Bradley West aussi qui joue dedans, c'est le gars qui joue qui va à la Citadelle.
Le pote de Jon Snow,
Sam Tarly
de la Garde de Nuit, tout à fait.
Voilà.
Ok, c'est cool parce que moi je l'ai pas trop vu depuis Game of Thrones et pour le coup il s'en sortait très bien.
Il a joué dans un mauvais film mais il est là.
Ils ont tous joué dans des mauvais films après.
Il a joué dans un film genre La Lune va s'écraser sur la Terre.
Ah ouais, chaud.
Tu vois
Bah alors là, il y a l'air d'avoir des enjeux compliqués dans le problème à trois corps. Je sais pas si on doit sauver le monde, mais à mon avis, on va sauver le monde. Écoutez, voilà.
Moi, j'ai peur du truc.
On verra.
Mais les lunettes Apple, là, tu vas voir le vrai monde tel qu'il est, et c'est Westworld.
Soylent Green is people.
Ouais, ça me saoule.
Moi, je trouve que l'esthétique m'a pas donné envie de fou dans la bande-annonce. J'ai trouvé ça un peu lisse, un peu léché comme Netflix. Le fait souvent, donc.
Si le rôdeur, c'est Moonfall le film.
Ok, c'est Moonfall le film, pas bien. Où la lune tombe, donc c'est logique, Moonfall, voilà, un indice chez vous, c'est comme les évadés, c'est limpide. Voilà, on verra, c'est très attendu, il y a beaucoup de sous, Netflix ça me fait peur, je suis snob, je préfère que ce soit HBO qui l'adapte, mais touchons du bois.
Ouais.
En parlant d'HBO, le 3 mars sort sur HBO The Regime. The Regime, c'est une série par les producteurs de Succession et avec Kate Winslet. Donc j'ai dit d'accord, j'ai signé déjà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je
on
crois que c'est
plus.
Si on en sait plus, mais moi tu sais, j'ai beau faire des podcasts et des lives sur les séries, quand je sais que je vais regarder un truc, je ne veux pas en savoir trop.
D'accord.
Je crois que c'est une dystopie futuriste avec du coup une satire sociale et tout. Il y a la prod de Succession, il y a des dialogues apparemment un peu façon Succession, très acerbes. Il y a Kate Winslet qui était très bien dans Mare of Easttown, cette série
bien sûr,
policière et
bio
récente. Donc je suis hyper chaude et on en fera des débriefs sur cette chaîne, c'est sûr. Et normalement, petit spoiler, on les fait pour la première fois, on fera des débriefs avec Soraya, ma meilleure amie, voilà, que vous avez entendu récemment dans le Film Club sur Titanic, qui est une personne pleine d'enthousiasme et d'opinion avec laquelle on n'est pas toujours d'accord. Donc ça devrait être rigolo de parler de The Regime ensemble. On adore parler de séries toutes les deux. On adore Kate Winslet toutes les deux, évidemment. Donc ça va être très très cool. Ouais, j'ai jamais vu ou entendu Soraya. Soraya est une légende du web qui va faire une apparition sur ma chaîne normalement à l'occasion de The Regime. HBO, donc probablement pas sur Warner, en France le 3 mars.
Pas d'avis.
On verra.
Ne sais rien du tout de ce qui se passe.
Je te dirai si c'est bien.
D'accord.
Je te dirai si ça peut te plaire.
C'est à moi.
Ouais.
Qu'est-ce que j'avais noté
Attends, il y a Zach Siwoo qui dit « Est-ce que j'ai le temps d'aller chauffer ma soupe ou je vais louper la partie sur House of the Dragon ?»
Non, pas tout de suite.
Tu as le temps d'aller réchauffer ta soupe. Tu sais quoi ? Dis-nous dans le chat, j'ai ma soupe. Et à ce moment-là, on fera la partie sur House of the Dragon, ok ? Tout repose sur toi, Zach Siwoo. C'est pour te remercier de ton sub à la chaîne.
Il y a une dernière saison de Curb Your Enthusiasm.
Ok, alors il faut que tu fasses le contexte parce que moi je sais rien de ça à part que c'est trop absurde pour moi.
C'est pas absurde, Curb Your Enthusiasm.
C'est chelou.
C'est
les trucs que t'aimes bien américains.
C'est cringe.
C'est pire. C'est malaisant.
C'est cringe. Mais c'est un cringe qui se laisse regarder. C'est un cringe qui se laisse regarder.
Selon toi, quoi.
C'est un cringe.
Mais toi, tu regardes Nathan For You.
Ouais, mais Nathan For You, c'est un level au-dessus.
Okay.
De Curb. Curb, ça reste, c'est pas plus cringe que Seinfeld, tu vois, un peu
j'ai
plus.
Seinfeld, j'ai jamais vu parce que
c'est le créateur de Seinfeld.
En 91.
Voilà, c'est Curb Your Enthusiasm, c'est une série légendaire faite par Larry David, le créateur de Seinfeld.
Oui.
Une série dans laquelle il joue une version absurde, abusée, on va dire, de son propre rôle. Avec des personnages qui jouent leur vrai rôle dans la vie et des personnages qui un mélange de d'adaptation, enfin tu vois, un mélange de gens qui jouent leur propre rôle et
oui,
d'acteurs qui jouent d'autres
rôles. C'est de la réalité fiction
new-yorkaise, c'est un ton,
voilà,
c'est une écriture
un
new-yorkaise, mais ça a lieu à Los Angeles et c'est justement
okay.
Tout le truc, c'est que lui est un New-Yorkais un peu blasé qui se retrouve à Los Angeles, la ville des apparences.
Tout à fait.
Et
moi, je regarde Selling Sunset, je sais tout ce qu'il est à savoir sur Los Angeles.
Et donc, et qu'il y a quand même ses potes de l'industrie du ciné qui sont là, mais il y a quand même des malentendus, des voilà. C'est une série qui a commencé il y a probablement 20 ans. En général, il y a une saison. Je pense qu'au départ, c'est un peu plus. C'est une série HBO mythique en fait, qui est de la génération des Sopranos et compagnie, tu vois. Sauf qu'elle perdure encore aujourd'hui.
Ce qui est ouf en termes de longévité. Hein. C'est un peu le Docteur Fou.
Parce qu'ils font des pauses, tu vois.
Ouais, c'est pas en continu.
Il y a des 3 ans sans saison, tu vois. Et là, on en est à la saison, je sais pas, 11, 14, un truc comme ça.
Ok.
Et c'est la dernière.
Okay.
Il a dit qu'il arrêtait. Mais après, il a déjà fait.
C'est pas encore commencé. Ça commence cette année, la dernière saison.
Oui, voilà. Okay. La dernière saison. Il y a eu des saisons de merde.
Saison 12, nous dit Aki Bastman, voilà, qui est journaliste lui, dans les séries télé ou agriculteur. Ouais, lui, il a dit sur le chat qu'il était agriculteur actuellement.
Donc saison 12 pour Curb, je suis saucé. Il y a c'est hit or miss hein, des fois hein, dans les depuis on va dire depuis les 10 dernières années, c'est un peu hit or miss.
Ouais. Ce qui est bon.
Curb. Mais ça peut être du génie hein, ça peut être pour la dernière, peut-être que ça va être du génie et peut-être que ça va être en tout cas c'est toujours sympa de revoir Larry parce que c'est un personnage auquel on peut s'identifier, parce que c'est un personnage auquel on a tous un pote qui est le Larry David.
Okay.
De notre vie, tu vois.
Ouais, et puis c'est une page qui se tourne du coup même dans l'histoire de la télé quoi, voilà. Il y a Aki Bassman qui dit ça va faire ouais. Un vide. C'est ouais. Et puis Larry David est plutôt jeune, donc ça aussi quoi, c'est toute une petite époque qui finit.
Exactement.
Avec la fin de Curb. Et un peu comme la fin des Guignols finalement.
Ouais, mais franchement ça tue, franchement, c'est... Si vous n'avez jamais vu Curb Your Enthusiasm, c'est difficile de pas tomber amoureux de cette série.
Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de commencer du début ou de regarder là à la saison 12?
Non, ça vaut le coup de commencer du début.
Ok.
Ça vaut le coup de commencer du début et d'en regarder un avant de se coucher.
Ok.
Chaque soir.
Un petit bonbon pour bien dormir.
Ça dure 30 minutes.
Ouais, c'est de la comédie.
C'est de la comédie. Les personnages sont à la fois imblairables et attachants, mais des oncles, les personnages deviennent tous tes oncles foireux que t'aimes, ouais. que tu
ils
détestes,
sont un peu
mais que t'aimes,
mais tu les aimes malgré.
Ils sont un peu ouais, voilà. Mais surtout qu'ils sont un petit peu genre, tout le monde a un pote qui renvoie son plat au restaurant, mais qui est toujours victime de quiproquo, qui est toujours
qui est un peu
dit ce qu'il pensait à la mauvaise personne et qui se retrouve dans la merde à cause de ça et qui en paye le prix et ça devient catastrophe un petit
peu.
Il
met les pieds dans le plat et tout.
Ouais, voilà. Okay. Mais
à la new-yorkaise quoi.
Voilà.
Ça me tente déjà plus que Nathan For You ou l'autre truc que j'ai oublié, mais il y a un gars, il a un peu des gros yeux, un peu globuleux, bleu et...
Tim Robinson.
Ouais, il me fait peur. Enfin, je sais pas.
I Think You Should Leave, la meilleure série de tous les temps. Si on a tout
pas. C'était délire. Bah, ça, c'est en cours, non? Il y a peut-être en 2024 une nouvelle
saison.
Je pense
qu'il a terminé là.
D'accord.
Mais... N'écoutez pas Mimi, c'est des super séries. Aussi
j'ai pas dit que j'aimais pas. Enfin, j'ai pas dit que c'est pas bien. J'ai dit que c'est pas, ça marche pas sur mon cerveau. Je suis juste là en mode.
Il y a des moments où tu te dis, ah, le mec est tellement se fout tellement dans la merde que t'as envie de te cacher derrière ton canapé.
Voilà, c'est quand même cool. C'est ce moment-là où j'ai du mal à continuer. Cool.
Et moi, j'étais limite là-dessus aussi.
Ouais, ouais.
Tu vois, le Nathan Fielder, Benny Safdie, là, je peux pas le regarder. Hein, avec la meuf de qui joue dans
j'ai pas la ref.
Je bloque.
Aki Bastman, aide-nous.
The Curse.
J'ai pas vu The Curse.
Ouais, The Curse.
C'est une série qui est sortie là il y a quelques mois. Emma Stone.
Deux Emmys pour Tim Robinson. Merci Aki Bastman.
OK, Emma Stone, oui, qui a joué dans tu plein vois. De trucs.
Donc là The Curse, il y a une série qui s'appelle The Curse avec oui. Nathan Fielder, Emma Stone, okay. Benny Safdie qui est coproduit par
Et ça, c'est gênant,
ça,
c'est cringe.
C'est trop anxiogène, en fait.
Okay.
Parce que moi, j'aime pas le côté Benny Safdie, en fait. J'aime pas les Safdie Brothers.
Uncut Gems.
Qui ont fait Uncut Gems.
Moi, j'ai adoré Uncut Gems.
Moi, j'ai pas aimé.
C'est très anxiogène pour moi. C'est ça s'arrête pas. Et c'est plein de persos qui mentent. Et ils arrêtent pas de mentir.
Ouais.
Et ils embrouillent tout le temps. Tout le monde était là. Mais la vie serait tellement plus simple si t'arrêtais d'être juste une forme d'escroc un peu nul,
ouais,
tu vois,
voilà.
Juste fait, admets tes torts et c'est
genre,
ok, mais,
ouais, mais
je sais pas,
ouais.
J'ai bien aimé Uncut Gems.
Ils aiment bien mettre les gens devant leurs contradictions et mettre les gens devant leur...
Devant leur humanité un peu nulle, un peu médiocre,
ouais,
quoi.
Moi, ça me déprime, tu vois, c'est un peu nihiliste et tout, ça me saoule, tu vois. Genre,
ok.
J'ai pas envie de...
Il faut quand même des persos avec un bon côté, quoi.
J'ai mis 3 semaines à regarder le pilote tellement je coupais.
Ah oui,
il y avait plus rien à regarder. J'étais genre, allez, je redonne une chance. Au bout du premier épisode, j'étais genre, non, cette série, elle est pas pour moi.
Bah, écoute, ça boucle un peu ma question de est-ce que je regarde ou pas, mais apparemment, le final a déçu plein de gens, donc j'étais là, bon, je vais pas m'en refuser.
Bah, moi,
les
gens adoraient le final. Je me suis spoilé, du coup, j'ai lu de quoi il s'agissait, et c'est effectivement, comme tu dis, absurde.
Ok.
Et mais c'est pas drôle. Enfin, je sais pas. Ça me glace le sang, moi. Ça.
Ok.
Tu vois. Et Curb, c'est pas du tout. On est très loin de ça avec Curb.
Ok.
Mais on est très loin de ça avec Nathan Fielder aussi. On est très loin de ça, encore plus loin de ça avec.
Est-ce que tu dirais
Tim
c'est
Robinson.
Un peu plus wholesome? Genre, ça fait quand même un peu du bien.
Oui.
Comme tu fait... dis, oui, c'est ton, t'es tout ton un peu
en fait,
loser,
ça fait,
mais
ouais, ça fait
j'aime bien, quoi.
Ouais, ça fait du bien parce que tu te dis, je suis pas le seul à trouver que ce truc-là est abusé. Je suis pas le seul à pas aimer quand, quelqu'un, je sais pas,
quand il y avait des cornichons dans le plat et que c'était pas indiqué
voilà,
sur la carte.
Qu'on avait dit... Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ce genre de situation.
Genre, les gars, il y a des cornichons, c'est un vrai problème, c'est une situation majeure,
exactement,
là, il faut l'indiquer.
Exactement, exactement. Okay. C'est exactement ça, t'as mis le doigt
et
dessus.
Tu fais pas trop chier avec ça parce que tu veux pas être ce gars.
Ouais.
T'es là, en vrai, je n'en pense pas
moi. Tu vois, Larry David, il va faire un peu chier.
Ouais.
Et du coup, ça va le mettre dans la merde parce qu'à un moment, il va avoir besoin de retourner au restaurant pour récupérer son portefeuille.
Ouais.
Et le mec a dit, vous aimez pas les cornichons, vous, hein, vous n'aurez pas votre portefeuille.
Ouais, et ça devient,
et ça devient
neige,
une
quoi.
Boule de neige, tu vois.
Okay.
C'est ça le principe de Curb.
Ok.
Il faut que tu regardes.
Maybe j'essaie. On en parle. Crois bien que si j'essaye, tu en seras le premier informé. Coucou Valérie, ne t'inquiète pas, on n'a pas encore parlé du sujet qui intéresse tout le monde. Et comme Zach Siwoo, qui est parti réchauffer sa soupe, n'est pas encore revenu, on va parler de Fallout. Écoute, la série Fallout, le 12 avril sur Prime.
Ah, il y a une série Fallout.
Il y a une série Fallout, ben, oui monsieur, par Jonathan Nolan et Lisa Joy.
Ah.
Le duo en couple à la ville, monsieur est le frère de Christopher Nolan, et on leur doit Westworld à Jonathan Nolan et Lisa Joy. Et donc là, ils adaptent Fallout pour Prime. Il y a des bons côtés, ok. On peut regarder le teaser, il est rapide. On va peut-être regarder le teaser parce qu'en plus, donc Fallout, c'est une série de jeux vidéo post-apo qui a une patte visuelle, musicale, etc., une DA très identifiable puisque c'est du post-apo un peu rétro-futuriste où il y a beaucoup de chansons très 50s puisque c'est la guerre froide, enfin la bombe atomique est tombée malheureusement sur les États-Unis et du coup on vit dans cette société futuriste post-catastrophe nucléaire qui est assez cynique, assez satirique, et c'est un jeu dans lequel on vit une aventure à la première personne, on fait des choix, on fait plein de quêtes, etc. On va regarder le teaser de Fallout parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis sur...
Ouais, je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu? Bah attendez, ouais. Je vous le montre le chat.
Vas-y, mais
toi,
je m'en rappelle plus.
C'est
vas-y.
Quoi? Parce que du coup, t'es pas très gaming.
Moi, j'ai jamais joué à Fallout. Un jour, j'ai téléchargé un jeu mobile où tu dois faire un...
Fallout 67, où t'as un bunker, là.
J'ai joué 10 minutes.
Ok.
Et j'ai rien compris, ça m'a saoulé.
Du coup, la série Fallout, elle arrive le 12 avril sur Prime. On en fera des lives, c'est sûr. Ça a l'air bien, non?
Écoute, franchement, Walton Goggins s'en est.
Walton Goggins, qui joue donc, vous l'avez vu, une boule, s'en est, qui est un acteur amazing, qui jouait dans... la série avec Vic McKay, les flics ripoux.
The Shield,
tout
et
à
c'est
fait.
Là où
je
on
l'ai découvert là-dedans.
Ouais, moi aussi,
dans
Justified. Il joue dans tous les trucs avec McBride, là, Danny McBride,
oui.
Notamment Righteous Gemstones, que j'adore, et Vice Principals. Et
Hateful Eight, on rappelle le rôdeur dans le chat. C'est clairement l'acteur m'a convaincu que la série Fallout peut être cool.
Je l'adore. C'est Uncle Baby Billy dans donc Uncle Baby Latex, qui était mon pseudo à un moment sur Instagram, vient de lui.
Uncle Baby Billy qui est là. Il y a un casting vraiment cool. Vous avez noté qu'il y a une actrice de Yellow Jackets. Alors Yellow Jackets que j'ai toujours pas vu, mais qui je sais plaît pas mal.
T'as pas
ouais.
C'était ok.
Ouais, il paraît que c'est bien quand même. Et quand même, voilà, il y a du pognon de fou. Il y a la team Westworld, on verra. Moi, je suis pas.
Il y a Ben de Lost.
Il y a Ben Linus de Lost. Incroyable. Qu'on a franchement pas assez vu.
Ça, c'est du
pour
lourd.
Le talent qu'il a. Et
tu vois, il y a une vibe Lost aussi dans le trou Détective 4.
Ah, ça, on aime bien.
Lost. Et ça,
sauf qu'il fait moins chaud, quoi.
Je me rappelais plus que t'aimais Lost.
Ah, j'adore Lost.
Eh ben, putain, là, tu vas en avoir pour ton argent. Je
pense. Si un jour on fait un live sur Lost, faut que tu viennes à 15h.
Voilà,
on lance à 16h.
Moi, j'étais autant dans Lost que dans Game of Thrones.
Ah, mais pareil, Lost, c'est mon origin story de fan de série télé,
pour
tu vois,
de
genre,
monde,
je vais sur des forums et je lis des théories et
pour
tout.
Beaucoup de monde, c'est ça.
Je lisais les livres que les gars, ils lisaient dans la série pour voir s'il n'y avait pas des liens.
Pour les gens de la chaîne YouTube New Rockstars qui ont fait leur gagne-pain en analysant les séries et les films, c'est aussi avec Lost que ça a commencé.
Évidemment. et ma podcasteuse préférée sur Game of Thrones. Quand Game of Thrones a fini, elle a fait quoi? Un podcast sur Lost. On l'adore.
Après, Lost, comme Game of Thrones, finit en queue de, en eau de boudin.
Je préfère la fin de Lost à celle de Game of Thrones de loin. Wow. Mais on en parlera le jour où je ferai enfin un live sur Lost.
Moi,
c'est
j'ai tellement
pareil,
envie de...
une arlésienne.
J'ai envie tellement de casser ma télé dans certaines saisons de Lost.
Oui, bah là, en fait, dans mon rewatch, j'ai arrêté à la 5 parce que c'est la saison qui est dure. C'est l'avant-dernière et c'est vraiment un ventre mou.
Il y a le milieu de la 3 avec la grève des scénaristes aussi, qui est un peu dur.
C'est un peu laborieux parfois, mais c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et c'était un beau voyage.
Écoute, ça, j'ai du mal à...
Après, je peux comprendre que quand c'est un long voyage, c'est chiant.
Ouais,
quand la destination est pas
je peux bien me le dire quand je le vis, mais ça m'empêche de remater.
Bah, c'est ce qui fait que je traîne. J'aime bien la fin, mais là, je sais que j'arrive dans la saison un peu compliquée. Bref, Fallout, ça a l'air assez unique parce que c'est Fallout. Ça peut être très cool.
Ils peuvent pas se foirer.
Ouais, enfin, ils peuvent parce que c'est la. On peut toujours, mais honnêtement, il y a du bon matériel pour faire au moins une saison qui marche, qui se tient, avec une intrigue cool. Après, je suis pas. Donc, moi, j'ai joué à Fallout 3 et à Fallout 4, mais je suis pas spécialiste du lore de Fallout et je me rends pas compte. Tu vois, par exemple, Westworld, il y avait plein de trucs quand même, prise de tête, en tout cas, on piégeait les spectateurs, il y a des plot twists et tout. Je me rends pas compte si avec le contexte Fallout, tu peux faire ça ou si ça va être un truc un peu plus linéaire avec un perso principal qui vit ses aventures dans ce monde. Ben Linnéaire, vous l'avez? Ok, Zach Siwoo, est-ce que ta soupe est chaude ou pas? Parce qu'il va quand même falloir qu'on s'y mette. On va décider que oui. Ah oui, I'm back. Ok.
Ah ouais, tu veux qu'on s'y mette maintenant? Moi, j'en avais d'autres avant.
Il est 22h40.
Ouais, ouais.
Oh non, mais on en a d'autres. J'en ai d'autres pour après. Mais je me dis, voilà. Bon. On va dire au milieu de la section série télé. Quelle série prévue pour Summer 2024 fait battre Tunker, Tequila Tex?
C'est House of the Dragon, bien sûr.
Bien sûr. House of the Dragon, saison 2. C'est quoi ton prono? C'est quoi ton flair sur ça sort quand?
Oh, je sais
This Summer.
Ils ont dit This Summer?
Ils ont dit Summer 2024.
J'en sais rien, vraiment, j'en sais rien. J'en sais rien. J'aimerais que ce soit pas,
qu'est-ce qui t'arrange en termes de festival? Parce que moi, ça me met dans la merde. J'ai vu été, j'étais là.
Ouais.
Mon co-animateur est DJ.
Ouais,
il travaille beaucoup en été.
Ouais. Bah, pourtant, je suis pas celui qui travaille le plus. Enfin, je suis pas un DJ de l'été.
T'es pas David Guetta Ibiza, mais oui.
Mais effectivement, j'ai déjà quelques trucs. Mais écoute, de toute façon, ce sera le lundi ou le mardi, donc de toute façon, je serai
on s'en sortira.
Là. En fait, c'est plus les vacances qui me font chier que les gigs.
Ok.
Voilà.
Oui aussi.
Mais
on s'en sortira.
On s'est débrouillé jusqu'à maintenant.
Tout à fait.
N'est-ce pas?
Oui. Et la première saison.
Il y aura bien Fab Florent pour.
Il y aura Fab Flo, il y aura Nodus, il y aura des nerds de House of the Dragon. Ça se trouve. C'est évidemment la série que vous avez le plus mentionnée sur Instagram, de très loin. Ma podcast. Donc la saison 1 était sortie fin août, à l'époque, 2022. Ma podcasteuse préf, Johanna Robinson, qui est très au fait de l'industrie et tout, elle pense que This Summer, ça veut dire fin du printemps, parce que pour des questions d'éligibilité au prix, au Emmy, etc. Moi, ça m'arrange, si c'est, enfin, le plus tôt m'arrange, hein, clairement. Donc, si c'est mai au lieu de août, je suis ravie. Elle mise sur fin mai, début juin. Voilà, on touche du bois, c'est elle qui le dit, pas moi. Mais à part ça, à quoi on peut s'attendre, sans vous spoiler, bien sûr, les gros trucs de l'histoire, dans cette saison 2
cheese,
de House of the Dragon?
Blood and cheese.
On en avait parlé dans le final de la saison 1, dans la partie spoiler pour la suite. Mais Blood and Cheese, oui, si vous l'avez, vous l'avez. À part ça, qu'est-ce que t'as le plus hâte de retrouver?
Des hommes. Des poissons.
Oui.
Peut-être des hommes poissons.
On y croit toujours. Il y a toujours des Velaryons dans le coin.
J'ai maté The Crown. J'ai bingé The Crown en 2 minutes.
Tout de la saison 1.
Saison 6.
Ok.
J'ai regardé avant de me coucher en faisant autre chose. Mais avec plus d'attention sur les premières saisons, notamment. Et là, je suis en manque de Matt Smith.
Mais moi aussi. Je suis in love de Matt Smith, c'est chaud. Toute dernière saison de The Crown, la 6, du coup, ça fait longtemps qu'il n'y a plus Matt Smith, puisqu'il jouait le prince Philippe dans les premières. Ouais. Et il y a des petits flashbacks, des mini-photos lui, et j'étais vraiment en mode, putain, qu'est-ce qu'il était bon.
Il est trop fort.
À Damon, et j'étais là.
Et c'est Damon, c'est le même gars, en fait.
Oui, la même
c'est
personne.
C'est trop drôle. C'est trop drôle de mater The Crown et de voir Damon dans la vraie vie, tu vois. Et franchement, j'ai trop hâte de le revoir. Tout le cast, voilà.
Oui, et puis là, alors on parlait d'une, deux, ça va partir en couille. Pour rappel, la saison 1 de House of the Dragon se clôture sur l'orée d'une guerre qui s'annonce entre les deux factions, les Green, la team Alicent, qui sont à King's Landing et qui ont pas mal de dragons, et les Black, la team Rhaenyra, qui ont d'autres dragons, dont un très très gros et Daemon. Et la saison 1 s'est finie avec un drame qui s'est produit pour la team Rhaenyra, qui va sûrement devoir répliquer, ma foi. Donc à mon avis, on va commencer vite et fort. Ça va pas être on est enfant, on est sous l'arbre-cœur, à se faire des tresses. Il y a pas d'intro là. C'est bang bang bang.
Je pense que ça va être vénère. Et je pense que Blood and Cheese, c'est le premier épisode.
Je pense aussi, ouais.
Et je pense que ça va être genre, wow, putain de merde.
Et les gens vont dire, so back.
Ok, c'est bon, là, lâche pas cette série.
Non. Tu vois, on va rester là.
Les gens
là.
Vont mater ça et vont dire, ok, c'est bon, on la lâche pas. Tu vois.
On est là, on va écouter des podcasts.
Et donc on est
chaud.
Moi, j'ai acheté un Caraxes en jouet, là.
C'est le dragon de Daemon.
Il s'est cassé immédiatement. C'est-à-dire que je l'ai assemblé.
Tu m'as envoyé une photo, j'étais trop contente pour toi.
C'est rattrapable avec de la super glue. Il faut que je prenne le temps de m'en occuper. J'ai pas le temps de m'en occuper d'ici depuis.
Si tu veux, j'ai un pote qui peint des figurines Warhammer et tout, qui a des cols spéciales. Je peux lui demander de te faire un Caraxes custom, tu vois.
Ah, ben moi, tu sais ce que j'aimerais, en fait.
Ok. Ça va lui arriver.
Je vais vous dire un truc exclu pour ce chat, ok.
Ok.
Il y a un rappeur dont je sur lequel j'obsède depuis que je suis adolescent. C'est Ghostface Killah.
Ok.
Un des membres du Wu-Tang.
Oui.
Ghostface Killah, il est connu pour être extravagant dans sa manière de s'habiller, etc. C'est une grosse influence sartoriale aussi pour moi sur la manière de m'habiller. Et il met un twist au côté bijou du rap. Tu vois, il pousse le bouchon beaucoup trop loin.
Oui, le bijou bling.
Voilà.
Plus.
Donc il a, si tu veux, il
je vois où tu vas.
Un de ses looks, si tu veux. C'est peignoir en soie,
top.
Petit dourag,
top.
Et brasse grosse chaîne énorme, hein, et un bracelet en or avec un aigle dessus.
Okay.
Mais un aigle presque grandeur nature, tu vois, le truc est.
Ouais, massif. Comme si c'était un fauconnier, le gars.
Exactement.
Okay.
Et donc moi, j'aimerais trop me faire un bijou, même s'il est en plastoc,
okay.
Même si c'est du toc, même s'il est fluo, même s'il est pourri. Je cherche une personne capable de me faire Caraxes en bracelet.
Alors, si vous avez accès à une imprimante 3D, envoyez-moi un DM. Franchement, ça peut vous arriver. On a 6 mois avant que House of the Dragon revienne. Si un jour tu peux mixer avec un Caraxes sur ton bras grâce à moi, je serais ravie. Et
non, mais ça,
c'est pas impossible. En or, je dis pas.
Non, mais...
Ou alors, sub à la chaîne, très fort. Peut-être.
Tu vois, genre, peut-être que... Non, en or, c'est... Personne va pouvoir me le faire. Ça va coûter
un an de gig, tu vois. Tu connais des gens qui savent. Moi, je
non, c'est pas possible. En or, c'est pas possible. Mais rien qu'un truc bien foutu en plexiglas qui tient debout et qui se casse pas la gueule et qui soit, tu vois,
ouais,
et qui soit cool pour une séance photo. Et puis voilà. Après, je le garde à la maison.
Sortir le masque.
Voilà, exactement. Mais si je peux avoir un Caraxes sur mon bras comme ça, j'aime tellement ce putain de design de dragon.
Yes.
Je l'aime tellement, putain.
Basé. Il me manque les dragons aussi.
Tu vois.
Ça me manque de découvrir des dragons, de les comparer, de t'envoyer des DM sur « Ah, t'as vu la dégaine avec les ailes trouées, il est trop bien et tout. » Enfin, c'était trop fun, House of the Dragon. Je suis trop contente que ça revienne. On en reparlera. Je pense qu'on fera... Alors moi, en tout cas, je ferai un live avec toi, j'espère, si tu es là. On fera un reminder. On en est où ?
On se hypera.
On se hypera avant que ça reprenne. Moi, je vais tout regarder avant que ça reprenne, clairement, de mon côté.
Je
vais relire le livre et tout. Et après, bien sûr, pour chaque épisode, on sera là, on vous fera des débriefs, ce sera super. On n'a pas beaucoup plus à vous dire sur House of the Dragon. En vrai, t'as vu d'autres choses, toi ?
Moi, j'aimerais avoir des amis qui l'ont pas vu et qui s'intéressent.
De découvrir la saison 1 ?
Pour eux. Parce que j'ai du mal à remater les saisons en solo, les séries en solo.
Je comprends.
Quand je remate une série, j'ai besoin d'avoir l'œil frais de quelqu'un dessus.
Mm-hmm.
Et donc, je cherche des amis.
Voilà, si vous êtes une personne sympa et que vous n'avez pas vu House of the Dragon saison 1, envoyez un DM à Tequila Tex pour être son ami et lui live commenter.
Non, non, calmez-vous. C'est parce que non, mais les gens vont vraiment le faire et ils seront déçus quand je les calculerai pas. Mais
peut-être vous serez en vue, mais vous aurez essayé.
Non, mais de toute façon, a priori, ils ont tous vu House of the Dragon s'ils sont là.
Bah, il y a moyen. Ça a un peu bien marché, quoi. Non, mais Fabrice Florent qui est surpris que je dise je vais relire le livre, la Go est intense 3000, mais bien sûr, je l'ai déjà lu deux fois, enfin, bien sûr, je vais relire. Parce que je l'ai lu une fois avant la saison 1, et après, je l'ai relu après la saison 1, parce que j'étais là, merde, qu'est-ce qui se passe, en fait, immédiatement après la saison 1, parce que le livre, il est long, tu vois, il se passe plein de trucs avant et après. J'étais là, ah, qu'est-ce qui va se passer après? Bah voilà, maintenant, il va se passer des choses!
Moi, j'espère qu'on va approfondir sur ces questions de dracomorphes. J'espère qu'on va approfondir. Rappelons, oui. Sur l'origine des dragons et le lien de sang entre les dragons et les Targaryens. Pourquoi
la catastrophe de Valyria, voilà, le fléau.
J'ai besoin qu'on approfondisse là-dessus.
Car rappelons que les dragons sont probablement source, c'est clair dans le texte, peu, mais on a déduit, nés d'une forme de magie noire qui consistait à hybrider des humains à Valyria, qui sont là d'où venaient les premiers Targaryens, avec des créatures dragonesques, pour à la fin donner des dragons, mais du coup c'était un peu contre nature et ça a causé le fléau.
Sur le principe des xénomorphes dans Alien.
Voilà.
C'est ce qui est postulé par plusieurs théoriciens du genre.
Que nous avons choisi de croire sur parole. Et tout comme les hommes poissons, on attend, on est là, mais c'est sûr, c'est sûr ce coup-ci, voilà.
Non, mais il y a quand même.
Il y a tous les indices.
Là, il y a eu le poème que Matt Smith,
Daemon
Targaryen chante au dragon pour l'apprivoiser.
En valyrien. Qui a été traduit.
Qui n'existe pas dans les livres.
Oui.
Et qui est totalement compatible avec les théories sur le sujet.
Disons que. Si c'est pas confirmé, en tout cas, il y a tout qui va dans le bon sens. George R. R. Martin, il sait ce qu'il fait. Voilà, on attend qu'il nous sorte un nouveau livre.
Caraxis ayant une forme de ver.
Oui. Le ver qui a contaminé la princesse Targaryen, exactement. Qui s'est enfuie. Ouais, il y a tout, on vous en a parlé beaucoup avec Tequila Tex, on vous en reparlera beaucoup, mais vraiment lisez Fire and Blood et allez lire toutes les théories.
Et une fois que vous aurez lu
sur l'origine des Targaryens.
Une fois que vous l'aurez lu tout ça, vous tapez Dracomorph House of the Dragon dans YouTube
et là vous aurez des vidéos de 12 heures.
Vous allez vous régaler.
Ah ouais, j'ai envie de me refaire ça, tu vois, autant que l'intrigue de House of the Dragon, l'ambiance, la hype, tout ce qu'il y a autour, c'est ça qui me manque aussi, quoi. C'est comme aller à Disneyland.
C'est pour ça qu'on est des nerds.
Oui, c'est pour l'engouement et pour toutes les théories qui font que, même si c'est jamais prouvé, eh ben, ça aura été cool d'y réfléchir. Ça nous a ouvert d'autres horizons. Et on espère que ça sortira au printemps plus qu'en été. Merci HBO. T'es dans la The Bear Family, toi?
Non, attends.
Ah, pardon. On n'a pas fini. OK.
C'est pas pour 2024. Mais, es-tu au courant? Qu'on murmure.
On chuchote à Saint-Pétersbourg.
Dans les couloirs d'HBO. Mm-hmm. Que la série sur le Sea Snake va se faire sous forme de dessin animé.
J'ai eu vent de cette rumeur. Donc la série sur les voyages de Corlys Velaryon. Quand il était jeune, qui a vu plein de choses sur et peut-être sous les mers.
Exactement.
Et qui en a ramené des trésors mystérieux. Eh bien, elle a été rumorisée, validée, annulée, on ne savait pas trop. Et peut-être que finalement, ce sera de l'animation, parce que guess what, ça coûte plus cher.
Ouais,
et ça peut être très cool, en vrai.
Apparemment, c'est passé animation. George R. R. Martin l'a dit. C'est en développement en termes de en série animée.
Ok. Et je sais aussi que, en tout cas dans la sphère des gens qui suivent les univers Game of Thrones et tout, il y a pas mal d'événements, séries, genre Comic-Con, etc., qui vont avoir lieu dans ce premier trimestre 2024, où il y a des acteurs et actrices de Game of Thrones qui n'ont pas forcément d'actu, qui seront présents, notamment Kit Harington, qui jouait Jon Snow. Alors, en soi, ça se fait que des acteurs viennent reparler d'un rôle qui n'est plus dans leur actu, mais il y a aussi cette grosse rumeur sur une série, sur la suite de Jon Snow, qu'est-ce qui lui serait arrivé après la fin de la saison 8 et tout. Moi, j'y crois pas, j'ai pas envie que ça existe, et je pense que Kit Harington a autre chose à foutre de sa vie, mais voilà, le fait qu'il soit présent.
Tout ce qu'il fait depuis ne marche pas.
Mais le pauvre, déjà, ça fait pas si longtemps que c'est fini, tu vois, il a eu des problèmes de désintoxication de l'alcool, etc., dont il a parlé publiquement, il a fait un ou deux films foireux, mais genre Emilia Clarke aussi, tu vois, tout le monde a fait des films foireux.
Emilia Clarke, il y a une curse Game of Thrones, limite.
Ouais.
C'est trop fort.
Bah, Winkers, son agent ou son agente prend pas des très bonnes décisions pour elle, quoi. Mais,
ouais, mais pourtant,
après,
pas,
peut-être
pourtant,
c'est pas
trucs
une
qui sont
super actrice aussi,
vois.
Quoi.
Ouais, peut-être.
Et pour le coup, Kit Harington, je l'ai pas vu dans le Nolan, mais parce qu'il a fait un Nolan. Non, pas un Nolan, un Dolan. Rien à voir. Mais je sais pas trop ce qu'il donne en dehors de Jon Snow, mais Jon Snow, c'était pas la performance d'acteur non. la plus dingo.
Non.
Donc voilà, je lui souhaite en tout cas de ne pas faire Snow, le nom de code de la peut-être série suite de Jon Snow.
Mais il y a Duncan Egg qui se fait, hein, de toute façon, non ?
Oui, Duncan Egg, Duncan ça,
Egg
c'est un préquel.
Production, non ?
Ça, c'est sûr, oui.
Ouais.
C'est sûr, et il y a... Alors, je pense qu'il n'y a pas de date, mais c'est validé. Donc, Dunk and Egg, Dunk et l'œuf en français. Duncan et l'œuf, c'est des nouvelles qui se passent juste avant, un peu avant la rébellion de Robert Baratheon. Donc, c'est après House of the Dragon, mais c'est bien après House of the Dragon, mais c'est avant Game of Thrones. Et on a peu de personnages de Game of Thrones qui étaient vivants à ce moment-là. C'est genre bien 70 ans, 80 ans avant. Et quelques-uns y étaient, mais voilà. Bah, Jon Snow, par exemple, n'était pas né. Hein, c'est la vie. Donc vous allez pas croiser du Sansa Stark au coin non. d'une rue. Et c'est sur un chevalier errant, Duncan, qui est accompagné de son écuyer va-nu-pied, Egg, qui vont à un tournoi et il leur arrive des aventures. Et après il y a d'autres nouvelles où il leur arrive d'autres aventures. Et au bout d'un moment t'es là, wait a minute, c'est pas juste un gars et son écuyer en fait, c'est peut-être genre quelqu'un quoi, c'est peut-être des gens. Ouais. Vous êtes des gens qu'on connaît un peu. C'est vachement cool.
Ouais, c'est bien.
Après, et ça, ils vont avoir une... Non.
Ah, pour moi, Duncan Egg, c'est connu que on sait qui c'est, quoi.
Ah bah, c'est... on sait qui c'est,
mais
on sait pas
qui c'est.
Non, mais
pour moi, c'est connu par tout le monde qui va commencer à regarder la série, quoi.
Ah non,
pas
non,
le
non,
twist
je pense
de la
que...
série. Ah ouais, tu crois?
Je pense pas que ce sera le twist de la série, parce que c'est pas si... Tu vois, genre... Ça peut pas être la fin de la saison en mode... Ah, et en fait, c'était lui depuis le début, tu vois, genre... Ah, c'était lui, c'est Luke, je suis ton père. On n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est plus genre... Ah. Ok, ah ouais, en fait, d'accord. Ces aventures-là ont peut-être un destin plus grand.
Moi, je
que
pense
juste.
On le sait dès le premier épisode, à mon avis. C'est le twist de fin du premier.
Oui, voilà, je pense. Donc, mais je le dis pas parce que je trouve à lire c'est sympa, tu vois. Et en même temps, quand tu le sais, ça te gâche pas le plaisir. C'est vraiment, c'est charmant. Ça change de la grande épopée tragique qui est House of the Dragon.
Moi, la seule nouvelle que j'ai lue, tu le sais dès le départ qui il est.
Attends, je l'ai relu il y a pas longtemps et je suis pas sûre qu'on le sache dès le départ. Ou alors c'est peut-être genre ils le croient pas, tu vois. Les personnages le croient pas.
Ah, je sais pas.
Parce qu'il y a un truc de bon, c'est pas très grave, c'est pas un truc de.
Ouais, bon, bref.
Et en fait, depuis le début, c'était Ned Stark, voilà. Mais vous verrez, c'est sympa. Ils vont faire une série. Il y a moyen que ce soit vraiment cool pour le coup dans l'univers Westeros. Alors bon, il y aura des tournois. Il y aura des gars avec des barbes et des tresses qui boivent de la cervoise dans des cornes.
Ouais.
Mais ça va être fun.
C'est une sorte de street Game of Thrones un peu.
Oui, on est moins dans les châteaux et pas là, c'est là. On n'est pas dans la salle du trône, on est avec les chevaliers qui ont pas de budget, qui ont pas de sponsor hein, littéralement,
ouais.
Et qui essayent de gagner leur croûte et de pas mourir pendant les joutes. Ça va être cool. Ok. Du coup, est-ce que tu es dans la The Bear Family ?
Non.
Ok. T'as essayé ou pas du tout ?
J'ai essayé. Et franchement. C'est pas pour moi, encore
trop
une fois.
Trop d'anxiété.
C'est trop genre la caméra qui bouge comme as. Yes chef.
Ah bah oui.
Ça crie. Je te coupe la parole. Mais non, mais je parle avec un accent genre de Boston.
Chicago. Attends, c'est très Chicago. Ils insistent sur le fait que c'est Chicago.
Ouais, bref, whatever. Genre ça
whatever.
Ça m'a saoulé.
Je comprends. J'ai une copine qui a commencé. Elle a regardé deux épisodes.
Ouais,
elle m'a dit. Il y a un moment où c'est moins stressant, je lui ai dit non, c'est anxiété la série, c'est pas moins stressant.
Ben voilà, tu vois, genre anxiété
mais
la série.
Mais c'est parfois très très drôle.
On laisse ça au petit personnage déconneur de Inside Out, tu vois. Et
il est si déconneur avec son
design
de merde.
Je regarde pas la télé pour être stressé en fait.
Mais alors, The Bear, moi j'adore, voilà, c'est une série qui est dispo sur Disney+, dont la saison 3 arrivera cette année. Et The Bear, c'est l'histoire d'un mec joué par donc Jeremy Allen White qui a grandi à Chicago, qui est devenu un grand chef, genre le plus grand chef du monde à un moment. C'est un petit génie de la cuisine, mais aussi un mec très nerveux qui va très mal, comme beaucoup de petits génies de la cuisine. Et il reprend le restaurant de son frère décédé à Chicago, qui est un petit resto de sandwich dont il veut faire quelque chose de plus viable. Et du coup, bah, c'est les histoires de ce mec qui va pas bien, avec son équipe de gens à Chicago qui vont pas bien, qui s'embrouillent tout le temps, qui se gueulent dessus. C'est une famille dysfonctionnelle. avec beaucoup d'humour. Vraiment, il y a des moments de The Bear qui sont hilarants et des moments qui sont mais horribles. Il y a notamment dans la saison 2 un épisode familial où tu comprends un peu plus ce qui a fait que le héros est aussi stressé et en anxiété dans sa vie, parce que tu vois un peu comment il a grandi et t'es là. J'ai arrêté de respirer pendant 42 minutes et j'ai adoré tout ce qui s'est passé. Il y a tout le cast est dingue, la BO est dingue, ça m'a donné envie d'aller à Chicago alors que je m'en bats les couilles de Chicago, j'ai envie de manger des sandwichs au bœuf pastrami de The Bear tout le temps. C'est hyper touchant, ça parle de masculinité, ça parle de deuil, c'est cool. Moi j'aime bien The Bear. Mais en effet, regardez l'épisode 1, peut-être 2, et si vous êtes comme Teki en mode « Eh, moi, je suis pas venu ici pour souffrir », bah, ouais. Ça va pas s'améliorer. J'aimerais vous dire ça va être plus chill, mais non, la réponse, c'est non.
On m'a dit la saison 2 est plus chill. Il y a aussi des gens qui détestent la saison 2.
Et je comprends qu'on aime un peu moins la saison 2. Elle a un peu plus d'épisodes. Disons que la saison 1 était très égale sur une bonne qualité. La saison 2, il y a des épisodes un peu bof, mais par contre, il y a des chefs-d'œuvre, et notamment cet épisode familial. Rien que pour ça, saison 2, c'est laisse tomber, quoi. C'est trop trop bien.
Bah, éclatez-vous bien avec les sandwichs au pastrami.
Voilà, moi, on est
préfère,
ensemble.
Je préfère les manger.
C'est très bien aussi.
Mais j'ai pas envie de savoir quels sont les problèmes de famille.
Des gens qui les font.
Des gens qui les font. Parce que j'ai déjà les miens. Et ça va.
Ça suffit. Oui, peut-être qu'il y a ça aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille pas trop dysfonctionnelle, d'avoir pas trop de problèmes parmi tout ce qui est frères, sœurs, etc. Donc, je peux regarder ça d'un peu loin. C'est comme House of the Dragon. J'ai peu de problèmes d'inceste et de dragons dans ma famille. Donc, je prends du recul. Série, dernière chose, qui a été mentionnée seulement sur Instagram, et j'ai été surprise qu'une seule personne en parle, parce que j'ai l'impression que les gens aimaient bien. Il y a Arcane, qui revient cette année sur Netflix, apparemment.
Je déteste Arcane.
Oh non!
Je
t'es le seul au monde. Moi, j'ai pas regardé
Arcane.
Encore. J'ai pas d'avis, ok. Vas-y,
toi,
t'es trop là pour
clash. Imagine Dragons, la série. Donc, j'en ai rien à foutre. Parce que ça suffit, le steampunk. Ça suffit.
T'aimes pas les engrenages?
Stop.
T'aimes pas les rouages et les chapeaux?
Stop, quoi.
Je sais pas. Moi, ça, je pense pas que c'est un
le
univers
petit personnage
qui va
lapin, canard, là. Ou
moi, j'aime bien
quoi.
Jouer à Final Fantasy, frère. Qu'est-ce que je te dis? J'aime bien.
Je comprends pas. C'est chum.
Donc, c'est l'univers League of Legends.
C'est
okay
néo-métal.
À la base, c'est quand même l'un des jeux populaires, des jeux les plus populaires du monde. Et Arcane, ça se passe dans cet univers-là. C'est une série d'animation qui a été faite par un studio français. Arcane Giving, une romance lesbienne en saison 2, nous annonce Etsu Miu. C'est quand même tout le monde a bien aimé. Aux US, en France, les gens qui connaissent League of Legends, les gens qui connaissent pas League of Legends, tous les gens que je connais qui ont regardé Arcane, ils ont kiffé. Sauf Tequila Tex. Voilà. Non, qui est là pour rager. Moi, j'ai pas regardé encore.
Il y a des gens talentueux français dans l'animation qui bossent sur cette série. Big up à eux. Génial, pas de souci. Le problème, il vient plus d'un côté esthétique pour moi, qui me déprime.
Oui, c'est
c'est
la DA, mais qui vient aussi du jeu et tout.
Voilà, c'est la
DA. Alors, Nodius, un avis sur Arcane, c'est Imagine Dragon la série. Il dit en vrai, il a raison. Mais tu vois, Mintara.
Si tu as de néo-métal, rap.
Linkin Park. Mais moi, les clips de Linkin Park, j'adore.
Dégueulasse. Non, mais on a l'impression que c'est Playmo qui l'a fait la saison.
J'adore que tu cites Playmo parce que vraiment c'est une excellente ref. Mais tu vois, Mintara dans le chat a dit Imagine Dragon la série, moi ça me donne envie de regarder.
Moi c'est un enfer pour moi. Vous vous rendez pas
mais
compte.
Mais c'est comme quand tu vois les Hobbits dans Rings of Power là et qu'ils chantent et que
exactement.
Moi je suis ému et que toi t'as envie de
moi,
crever.
J'ai envie de crever. De crever.
Écoute, c'est... moi j'aime bien Hybrid Theory de
genre,
Park. Merci John Scatman.
Graffiti, skateboard du futur, engrenage, skateboard monté, monté sur un zeppelin, tu vois, genre,
moi,
non.
Je suis chaud.
Non.
Moi, j'aime bien. Non, mais non. Ça passe ou ça casse.
Stop, Jules Verne.
Moi, j'aime bien.
Stop.
Non, arrête. J'aime bien,
arrêtez Jules Verne. Arrêtez Jules Verne tout de suite.
Écoute, on est en majorité, regarde, le chat est chaud.
Une horreur.
Mais tout le monde dit c'est vrai. Juste, voilà, si jamais vous détestez Jules Verne et Adèle Blanc-Sec, eh bien vous serez dans la team Tiki.
Horrible Adèle Blanc-Sec.
Vous êtes comme le reste du monde, vous aimerez
bien. Adèle Blanc-Sec, s'il te plaît.
Moi j'aime bien Adèle Blanc-Sec.
Horrible.
Regarde,
j'ai grandi...
Omelette Douce qui arrive, qui dit alors en caps lock, comment ne pas aimer Arcane, ce chef-d'œuvre.
J'ai grandi avec l'animation japonaise. Comme résistance culturelle face aux Français.
Ok, tu regardes Nicky Larson, ça va.
Qui veulent nous imposer des dessins animés éducatifs de merde dans les années 80. Je viens de cette génération-là où on s'est battu pour que Goldorak existe.
C'est quoi ça?
On s'est battu pour que Nicky Larson soit moins censuré que les
qu'il soit problématique.
Bah, on s'est battu pour que à partir d'une saison de City Hunter, il y ait un épisode et demi de Nicky Larson, tu vois, tellement il coupe dedans, tu vois.
Ouais.
On s'est battu pour ça.
Bah peut-être parce qu'à 8 ans, c'était pas la peine de voir Nicky Larson en non censuré.
Je sais pas. En tout cas,
moi je trouve que Arcane c'est trop enfantin, c'est trop lisse.
Non, c'est pas ça, c'est une esthétique européenne.
T'aimes pas Dofus?
Que j'aime, non.
Bah voilà, il y a plein de gens qui aiment Dofus.
Je déteste Dofus. C'est une esthétique de BD et de pop culture et de dessin animé et européenne. Ça me fait penser à Luc Besson, ça me fait penser à Ubisoft.
Est-ce que c'est pas l'Eurodance de l'esthétique, tu vois?
Non.
C'est de mauvais goût, mais c'est une identité culturelle qui mérite d'être respectée.
Ouais, c'est une identité culturelle qui mérite d'être respectée à des kilomètres de moi. Il y a pas de problème. Ok, c'est quoi? Je vais dire un truc. Je respecte Arcane.
Oui.
Mais laissez ça loin de moi, s'il vous plaît.
Tout comme tu respectes Imagine Dragons, mais tu n'irais pas les voir en concert.
En plus, c'est américain. C'est un peu américain. On parle d'un truc d'une esthétique. Tu vois, Imagine Dragons, ça vient d'un truc américain.
Ah, c'est très américain, Imagine
plus
Dragons.
Plus que France, plus qu'européen. Mm-hmm. Tu vois, américain, mais les mauvais côtés. Tu vois, un peu Gorillaz.
Mais mec, tout le monde aime bien Gorillaz. T'es vraiment snob.
Non,
moi, j'aime bien. Tu sais, le clip de Gorillaz avec le petit gars sur son moulin, là, qui flotte dans le ciel, là. Moi, j'aime trop. Mais comme les clips de Linkin Park, j'aimais trop, mon gars. Ça, c'est ma. Tu vois, Final Fantasy 9 et tout.
Non.
Ok, bah, je pense que je vais kiffer Arcane. Du coup, transition parfaite. Est-ce que t'avais d'autres séries? Ou est-ce qu'on a fait le tour?
Ok.
Bon, bah, pas transition parfaite. Vas-y, moi, j'ai fini mes séries télé. Oui, good.
Attends, qu'est-ce que...
Ah, j'ai noté, je sais pas ce que ça va donner, mais le 27 février sur FX, il y a une série qui s'appelle Shogun, qui est une série qui parle des samouraïs du 17e, et c'est avec Hiroyuki Sanada, cet excellent acteur que vous avez notamment vu dans Westworld, mais pas que. Donc je suis un peu chaude parce que c'est une série historique sur les samouraïs, et il y a vraiment plein de pognon sur les costumes, donc voilà, Shogun, on verra.
Très bien. J'ai adoré, et pourtant, aussi, animation, cette fois-ci, animation... pas exclusivement japonais, je crois qu'il y a plein de studios du monde entier qui ont bossé dessus, mais Blue Eyed Samurai sur Netflix, c'est une assez bonne série.
Ok, j'ai pas vu. Je pensais que t'avais parlé Tokyo Detective. Tokyo Vice, pardon.
J'ai pas vu ça.
Tokyo Vice, non.
En tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté The Acolyte, qui est la série Star Wars qui va sortir cette année.
Ah oui, bah ça. Qui est, je te laisse là-dedans.
Qui en tout cas a le mérite. On sait pas si ça va être bien. On sait pas si ça va être Boba Fett, un regardable dégueulasse,
Obi-Wan
chiant à mourir, ou Andor assez cool, tu vois.
Je sais pas, j'ai essayé Andor, mais même Andor, j'étais là, c'est Star Wars.
Ça va.
Bah, I tried.
Ok. On verra ce que ça a donné. The Acolyte, en tout cas, ça le mérite de se passer à un moment où il y a plein de Jedi et plein de Sith et ça se tape et c'est cool, tu vois. Et okay. C'est lore. Ça va être du lore, beaucoup de lore.
Ok.
Donc ça peut être pas mal.
Moi, j'aime le lore.
Il y a The Penguin, qui est la série, donc, tirée de l'univers du Batman de Matt Reeves.
Le Batman avec Robert Pattinson, donc voilà. Le dernier Batman en date au cinéma,
ouais.
Avec le pingouin joué par Colin Farrell,
très
dans
maquillé.
Un fat suit, malheureusement. Oh, ouais. Donc un costume de personne grosse, parce qu'apparemment les acteurs gros n'existent pas. Voilà.
Non, oui.
Et à part ça, c'est Colin Farrell, j'adore Colin Farrell.
En tant que gros, choqué avec Colin Farrell qui choqué.
Ok.
En tant que gros, je suis ok avec ça. Donc, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein, à part
moi, j'adore Colin Farrell.
C'est probablement problématique, mais je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça.
T'as le droit d'avoir ton opinion, les ok.
Exactement. Et tu vois, je pense que même si j'ai pas non plus adoré Matt Reeves machin, le pingouin, c'est un personnage qui m'intéresse. En
fait. Ah grave, moi aussi.
Et donc, je
depuis
vais quand même
Tim
regarder.
Burton et tout, il est. En vrai, ouais. Je kiffe le pingouin.
Ouais.
Je trouve que c'est cool. De lui consacrer un truc.
Ouais.
J'avais ok aimé le Batman de Batterie, je l'ai jamais revu depuis, je l'ai vu au ciné, j'étais
ouais.
là, ok, j'adore
ouais,
Pattinson
ouais, ouais,
et
moi
tout.
Aussi pareil. Ouais.
Donc je suis semi, plus. Je suis tiède. Jusqu'ici les séries Batman, bah il y avait eu Gotham et tout, c'était jamais des chefs-d'œuvre. Donc tu me diras. Je verrai. Si tout le monde dit c'est très bien, je regarderai.
Et finalement, il y a apparemment qui devrait sortir cette année, mais j'y crois qu'à moitié, une série tirée de Dune, tirée de l'univers de Dune.
Ah oui, j'ai vu passer.
Et c'est un prequel sur les Bene Gesserit, donc les sorcières.
Les Bene Gesserit.
Les Bene Gesserit. C'est bien, ça.
Pour une fois que c'est moi qui ai pas les rêves, ouais, je peux disrespect ton univers.
Donc, tu peux y aller. Et c'est elles les boss de la voix déconneuse.
Ok. Dommage que ça soit Timothée Chalamet le héros du film, mais bon, du coup, elles auront peut-être une série.
Passe-moi le sel.
Et est-ce que tu sais si c'est toujours Villeneuve?
Tu sais que je fais une blague, mais il dit vraiment genre passe-moi le sel avec une voix déconneuse.
En même temps, si t'as ce pouvoir, faut bien le tester. Ouais. Avec après, c'est un truc, c'est un film où les épices c'est important, donc peut-être le sel, c'est du sel magique, tu vois, je sais pas. Genre, ça a l'air d'être un del chez eux, donc.
C'est un film
sel.
Où les épices c'est important.
Non. Il y a un truc ou l'épice peut-être.
Sel.
The Spice finalement. Ah, il y a The Looter Boy qui parle. Salut, qui rejoint la chaîne pour la première fois. Welcome, bienvenue. Qui nous parle de Severance, qui est son coup de cœur de 2023. Ouais, t'avais regardé Severance?
J'ai pas aimé.
Bah toi qui aimes pas déprimer devant les séries, c'est
j'ai
pas.
J'ai regardé toute la saison 1, putain. J'ai tenu, ouais, jusqu'à la fin.
C'est assez atypique, Severance.
J'ai trouvé ça claustrophobe.
Ah ouais, bah ça marche bien. Hein. C'est une série sur le mal-être au travail et l'enfer capitaliste, mais avec une vraie proposition dans la forme aussi, quoi. Ouais. C'est de la SF.
Ouais. Et j'adore tous les acteurs dedans.
Ouais.
Mais je sais pas. Ça a trop bien marché sur moi et ça m'a rendu triste. Donc la série est trop bien pour moi.
Bah je comprends. Moi j'ai commencé, j'ai arrêté, mais je pense que c'est parce que j'avais quitté mon travail il y a pas assez longtemps. Ouais. J'étais peut-être encore dedans et j'étais vraiment. Non, j'avais quitté mon travail, mais j'étais vraiment en mode ah ouais non un truc sur la souffrance au travail pas là tout de suite, peut-être plus tard. Et je pense que c'est vraiment ça a de bonnes chances de revenir cette année. En tout cas ils ont dit qu'ils travaillent sur une saison 2, c'est sûr.
Oui et il y a des dramas.
Ah, il y a des dramas en coulisses à la prod et tout. Ouais. D'accord. Donc 2024, pas sûr. Pour une saison 2, s'ils n'ont pas commencé à tourner.
Mais Apple TV, c'est le meilleur
provider de séries.
Ah, en ce moment, écoute, je viens de binger. Je suis en cours de bingeage de The Morning Show.
Ok.
Ça tue.
Alors, saison 1, ça tue. Après, non.
Ah ouais?
Bah, tu verras. T'as saison 1 là?
Moi, je suis à saison 3.
Ah ouais, moi je trouve saison 1 c'était top, ça aurait dû être une mini-série, tu vois.
Ouais.
Saison 2, OK, Covid compliqué et tout, saison 3 j'ai pas regardé du coup parce que
ben saison 3 il y a John Hamm.
Comment on a dit aussi, tu vois, il y a John Hamm.
Ouais, il y a John Hamm.
Putain, j'adore John Hamm.
Et il joue juste Don Draper.
Ah,
il joue juste Don Draper dans la peau de Elon Musk. Donc c'est fabuleux.
Putain, John Hamm qui joue Elon Musk,
je suis désolé, c'est bien.
OK.
Je peux pas dire que c'est fabuleux parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent dans cette série, notamment le personnage de Reese Witherspoon. Mais, le personnage joué par Reese Witherspoon, Bradley, je sais pas quoi, et elle m'énerve, et surtout quand tu sais que c'est elle qui coproduit.
Ouais,
et
en plus, elle se donne le rôle de justicière, parce que
c'est chiant.
À la base, c'est une série qui interroge MeToo, Morning Show, c'est une série qui se passe dans la plus grande émission matinale de la télé américaine, animée par une présentatrice jouée par Jennifer Aniston et un présentateur joué par Steve Carell. Et le plot de la saison 1, c'est. Le présentateur star, joué par Steve Carell, est accusé, enfin, il a un MeToo, quoi. Il est call out pour être un gros forceur. Et du coup, bah, il est sorti de l'émission. Le personnage de Jennifer Aniston a le cul entre deux chaises entre, bah, c'est mon pote et mon collaborateur depuis des années, mais aussi, est-ce que c'est un creep avec, qu'est-ce qu'il a été nul avec des meufs? Et il est remplacé par un personnage joué par Reese Witherspoon, qui est, elle, une journaliste un peu plus rentre dedans, on va dire, moins consensuelle.
Ouais mais
et
en
du coup, il y a
temps,
aussi la
Texan.
Dynamique entre les deux femmes qui se jouent, quoi. Voilà.
Ouais.
C'est le pitch et après il se passe des bails.
Ouais, il se passe plein de bails. Et puis ça colle à l'actualité. Ça parle du Covid et tout. Ça parle de la guerre en Ukraine.
Non, mais c'est pas mal.
Moi,
The Morning Show.
Carrément
en tout
bien.
Cas, la saison a été vraiment bien et j'ai pas vu la dernière, donc tant mieux si elle te plaît.
Je suis dedans.
Il y a For All Mankind. Donc Fabrice Florent m'a dit énormément.
Fabrice
bien.
Florent, merci
Fabrice Florent.
Florent
et toi, vous êtes
merci,
des Apple TV
putain,
Boys.
Putain, Fabrice Florent, merci parce que For All Mankind, c'est de la balle. Et effectivement, il y a des longueurs. Effectivement, il y a des moments où tu t'endors un peu. En général, il nail toujours le dernier épisode de la saison. Donc, tu mates le premier, t'es saucé. Tous les épisodes au milieu, tu t'endors un peu à moitié, mais tu suis quand même le truc.
Okay.
Et la saison, et le season finale, tu chiales ta race. Et tout se passe, toute l'action, tout le budget, il est mis dans le season finale, tu vois, qui dure en général double dose.
Yes.
Et là, je viens de voir le season finale.
On est saison 4, là.
Ouais, on est saison 4, ouais. Et donc là, il vient d'avoir le dernier season finale. Un masterpiece, masterclass, grotesque.
Ils ont dead ça.
Incroyable, incroyable, fabuleux, génialissime. Genre, j'étais accroché. Tu devines ce qui va se passer, mais t'es quand même stressé.
C'est pas grave, t'es pas obligé d'être surpris dans la vie.
C'est de la balle. C'est de la balle.
T'as regardé Lessons in Chemistry?
Non.
Ok, bah c'est sur Apple TV+. Fabrice me l'a vanté dans le Fab et Mimi Show. Mmh. C'est avec Brie Larson qui joue une chimiste dans les années 50, qui du coup peut pas être chimiste parce que c'est une femme,
ouais.
Et qui fait de la cuisine avec du coup en utilisant ses connaissances en chimie, donc plutôt intéressant pour moi en tout cas. Et j'ai regardé, j'ai pas aimé, mais parce que je suis snob, donc je suis pas sûre que ça te plairait, mais j'ai aucune idée de ta vibe sur les séries un peu historiques. Qui rappelle que le patriarcat c'est pas bien, tu vois.
Moi, je vois.
J'ai trouvé ça, que ça manquait de subtilité dans l'écriture des personnages.
Ah ouais, ça c'est.
Et j'ai peur que ça te bloque un petit peu.
Ouais, ça.
Il y a Fondation sur Apple TV aussi.
Ça, j'ai commencé
Apple
à regarder. Et si The Three Body Problem c'est pareil, je vais m'emmerder.
J'ai un peu peur de ça, ouais.
Ouais. Parce que Foundation c'est genre, sortez vos cahiers, quoi.
Ouais, c'est vraiment. Bah, c'est relou. Du Asimov, quoi. C'est pas fun.
C'est vraiment relou.
Il y a pas Only Murders in the Building, c'est fini?
Non, c'est pas fini. Hein,
beaucoup de gens dans le chat hein, depuis le début du live.
Bien entendu, bien entendu, ça sera là. Bien
je regarde
entendu,
grâce à toi, c'est entendu. Trop bien, c'est la meilleure chose.
C'est cosy. Si vous aimez, ben voilà, je dirais que t'aimeras peut-être pas Curb parce que c'est un peu la même vibe.
Ok. Bon, pour moi, Curb, tu vois, Only Murders in the Building, c'était pas malaisant dans ma tête.
Non,
c'était juste un peu trop bredouillé pour moi, quoi. Un peu trop.
Il y a ce côté dans Curb, je sais pas comment t'expliquer ce côté. On assume le rêve new-yorkais. Enfin, ce côté, on assume. Ce côté.
Moi, le cliché New York, j'aime bien. Tu vois, le truc où New York, c'est un peu un personnage du film.
Oui,
moi, j'ai jamais été à New York. Je suis là, mais vas-y, fais-moi rêver.
Ouais,
fais-moi croire qu'un jour, Curb j'irai à New York, il va y avoir de la neige et tout, et ce sera bien.
Curb se passe à LA, mais se repose sur le même genre de folklore, on va dire.
White Lotus saison 3, c'est pas cette année. Hein.
Je sais pas, mais en tout cas, il y a un cast qui a leaké là, non?
Il y a les premiers noms du cast, je crois, qui ont commencé à leaker sur le chat. N'hésitez pas à nous les donner. White Lotus,
en tout cas,
donc, toi, t'es très
son...
fan,
ouais,
moi,
j'adore,
moi.
J'adore,
clairement, j'ai regardé les deux saisons et j'étais là. Je sais pas pourquoi je regarde. Je regarde parce que tout le monde me dit c'est trop bien et que je me dis si je continue à regarder, je vais finir par comprendre. Et je suis là.
Non, j'adore.
J'aime pas trop. Il y a Carrie Coon. Donne du contexte à Key Bastman parce que je suis nulle en nom. Dis-moi, il y a Carrie Coon, tu sais, elle jouait truc dans machin et je serais ah ouais, c'est cool, c'est elle. Mais du coup, il y a des chances que c'est pas très long White Lotus. Enfin, c'est pas des saisons très longues, mais c'est une série
non,
un peu chère.
Non mais laisse tomber. Elle joue dans The Leftovers. L'héroïne. Ah, oui,
ah oui, d'accord. L'héroïne de The Leftovers et la sœur de Ben Affleck dans Gone Girl. Ok, bah ça, je l'ai. Voilà.
Bon.
Ok, c'est pas le nom le plus prestige pour The White Lotus. On verra. Écoute,
non, mais c'est centré sur la meuf qui joue la masseuse dans la saison 1.
Ah, je l'aimais bien, elle.
Donc,
et on sait où ça se passe?
Oui, mais j'ai oublié.
Ok. Bon, bah The White Lotus reviendra.
Et
tu seras fan, moi moins. On en fera
ouais,
un live.
Ouais, je pense que je serai fan.
Bah ouais, il y a moyen.
Ouais, j'ai tellement aimé les deux premières.
Et voilà. Rappelons que quelque part, un jour, quelqu'un a confié les droits de La Tour Sombre à Mike Flanagan, à qui on doit House of Usher, Haunting of Bly Manor, of Hill House et tout. Tour Sombre, la saga de Stephen King que j'aime le plus au monde. Mike Flanagan, le plus gros nerd de Stephen King du monde. Il y a moyen qu'un jour on ait une bonne série La Tour Sombre sur Prime, mais... bonjour Émilie de Stephen King France qui a été invoquée dans le chat immédiatement. Bonjour. Mais on va pas dire que c'est 2024 Émilie, on va pas mentir aux gens, c'est pas 2024, c'est même pas en prod, on n'a pas d'acteur, on n'a pas de casting, on a rien, mais un jour on fera des lives sur La Tour Sombre.
Donc c'est
série
quoi, c'est des cowboys médiévaux dans le futur qui il y a une tour.
C'est des cowboys métaphysiques dans des dimensions parallèles soit post-apo, soit ésotérique, soit littéralement New York. Il y a plein de choses dans la tour sombre. En fait, la tour sombre, tu peux pas aimer parce qu'il y a tout. Donc, mais c'est comme, tu sais, tu vas dans un buffet à volonté où il y a tout. Le truc qui fait tacos et pizza et que t'es la tête, c'est pas bon. Ouais. Moi, je trouve, la plupart des choses dans le buffet de la tour sombre sont délicieuses. Et à la fin, ça fait un goût unique, tu vois. J'adore la tour sombre, j'adore tous les niveaux. pun intended de la Tour Sombre, tous les niveaux de lecture, l'aspect western, j'aime bien, l'aspect science-fiction, j'aime bien, l'aspect méta, j'aime bien, parce que c'est l'œuvre qui relie toutes les, c'est le Stephen King universe qui est vraiment dedans. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est compliqué à adapter,
c'est une
œuvre
qui relie tous les films de Stephen King.
Tous les, beaucoup des livres de Stephen King, ouais.
Ouais.
T'as, c'est voilà, c'est le point pivotant. La Tour Sombre autour duquel tous les mondes existent, y compris ceux des œuvres de Stephen King.
D'accord, ok.
Le mec est zinzin, mais écoute,
j'avais pas capté que c'était ça.
Si, c'est le métaverse bien avant le
peu
MCU.
J'ai un peu peur de Ready Player One.
Non, bah c'est le c'est le film La Tour Sombre qui était avec Idris Elba et Matthew McConaughey et qui était nul à chier, vraiment une insulte. Il y avait un peu ça, genre à un moment il passe à côté d'un, t'as un genre de parc d'attractions abandonné où t'as le ballon rouge du clown dans ça, tu vois, mais pour aucune raison, j'étais là, c'est pas comme ça. Non, la Tour Sombre, c'est vraiment, tu peux avoir un perso qui arrive et c'est Jack Torrance, tu vois, par exemple. Mais pas parce que c'est un gimmick, juste parce que il se passe un truc avec des dimensions qui se mélangent. D'accord. Et Jack Torrance, il sait pas pourquoi il est là et il est dangereux, enfin, voilà. Okay. C'est très métaphysique, très compliqué. Okay. Mais, très très bien. Ok. En vrai, je vais faire très vite la partie jeux vidéo et après je pense qu'on va se dire au revoir parce que ça fait déjà un moment qu'on est là.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaille chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.